Bienvenue à ZDebate. Aujourd'hui, on explore l'impact de l'intelligence artificielle sur un domaine clé, la conception assistée par ordinateur, la CAO. C'est une technologie qui, bon, ne fait pas que changer les outils logiciels, elle touche vraiment au cœur des métiers de dessinateur-projeteur et d'ingénieur-concepteur. On parle de secteurs comme l'architecture, l'automobile ou l'aérospatiale. Les sources qu'on a pu consulter soulèvent une interrogation centrale. Cette automatisation, poussée par l'IA, va-t-elle remplacer ces professionnels, même en partie, ou va-t-elle surtout, comment dire, décupler leurs capacités? Est-ce qu'il ne faut pas tempérer un peu l'enthousiasme ambiant face à ce que ces outils peuvent réellement faire aujourd'hui? Alors, pour ma part, je défendrai l'idée que l'IA est avant tout un outil d'augmentation, révolutionnaire pour la CAO.
Moi, je soutiendrais plutôt qu'il faut se méfier de cet optimisme, justement. Les risques de remplacement pour certaines tâches sont bien réels, et puis il y a les limites actuelles de l'IA, qu'elles soient techniques ou, disons, liées à la fiabilité. Tout ça nous oblige à une analyse plus prudente, plus critique.
Pour moi, l'apport de l'IA, et notamment via ce qu'on appelle la conception générative, on y reviendra sans doute, c'est vraiment une avancée majeure. Presque un changement de paradigme en CAO. Des publications, comme celle de l'IGCA ou les analyses de Formlabs, le montrent assez bien. Concrètement, l'IA prend en charge des tâches répétitives, vous savez, celles qui consomment du temps sans forcément demander une grande créativité. Les premières ébauches de dés, le traçage un peu fastidieux, la mise en couleur. Ce temps qui est libéré, c'est du temps gagné pour l'innovation, pour réfléchir à des problèmes plus complexes. Les sources comme Formlabs ou les projections de CAO Trends 2025 soulignent aussi l'accélération des cycles de conception et de validation.
Mais le plus impressionnant pour moi, c'est sa capacité à optimiser les designs selon de multiples critères. Le poids, la performance, le choix des matériaux, le coût, et à proposer des solutions radicalement nouvelles, parfois même contre-intuitives qu'un concepteur humain n'aurait peut-être jamais envisagées. Le métier change, c'est ça qu'il faut voir. L'ingénieur ou le dessinateur se concentre moins sur le comment dessiner et plus sur le quoi concevoir, en définissant finement le problème, les contraintes, les objectifs. L'IA devient alors une sorte de partenaire créatif, un copilote, comme le suggère Genai.fr ou le think tank Arts et Métiers, qui amplifie l'intelligence humaine. Voilà.
Je comprends l'attrait de cette vision, mais je pense qu'elle occulte une partie importante de la réalité. Ce potentiel d'automatisation que vous décrivez, il a un revers, le remplacement pur et simple de certaines fonctions. Et ce n'est pas de la science-fiction, hein. Une analyse sectorielle dans le bâtiment, par exemple, relayée par Mon Bâtiment, cible très clairement des métiers. Les dessinateurs, qui effectuent des plans standards, répétitifs, ou encore les maîtreurs, ceux qui calculent les quantités de matériaux, vous savez, un travail qui peut être largement automatisé aujourd'hui. On parle là d'impact direct et à court terme. Au-delà de la question de l'emploi pur, il y a un autre risque que Desynthèges et Genai.fr mettent en avant, celui de la standardisation. Si tout le monde utilise les mêmes algorithmes de conception générative, est-ce qu'on ne risque pas de voir émerger des designs qui se ressemblent un peu tous? Une perte de cette diversité créative qui fait la richesse de l'ingénierie, de l'architecture, sans parler d'une possible érosion des compétences techniques fondamentales si on se repose trop sur la machine. Et puis, bon, il y a les obstacles très concrets, hein. Le coût des logiciels d'IA avancés et de la formation nécessaire pour les maîtriser, ça reste élevé. Leur complexité n'est pas à négliger. Et surtout, leur performance dépend crucialement de la qualité des données qu'on leur fournit en entrée, un point soulevé par Desyntech. Et c'est à CAO Trends 2025. Enfin, on ne peut pas ignorer les limites intrinsèques des IA actuelles, les biais qui peuvent s'introduire via les données d'entraînement ou le manque de transparence de certains algorithmes, la fameuse boîte noire. Le think tank Etrendy insiste aussi sur ces aspects, sans même parler des questions épineuses de responsabilité en cas d'erreur.
Parlons justement de la conception générative. Vous semblez la voir comme une simple évolution, mais pour moi, c'est bien plus que ça. Quand on parle de conception générative, on parle de définir des objectifs, alléger une pièce, maximiser sa résistance, minimiser son coût et des contraintes, l'espace dispo, les matériaux utilisables, les forces appliquées, et de laisser l'algorithme explorer des centaines, voire des milliers d'options de design possibles, souvent avec des formes très organiques, inspirées de la nature, quoi. Ce n'est pas juste une optimisation de quelque chose qui existe déjà, vous voyez. Les sources comme Formlabs ou le think tank Arts et Métiers donnent des exemples assez frappants. Gestack, qui réduit de 40% le poids d'un support d'amortisseur. Wheel, qui optimise un boîtier de batterie pour fauteuil roulant, avec un gain de poids de 40% aussi. New Balance, qui crée des semelles de chaussures sur mesure. et l'exemple emblématique d'Airbus avec sa Biavic Partition, cette cloison d'avion allégée de 45% grâce à une structure qui ressemble à du corail. Ce ne sont pas des gains marginaux, ça. C'est une approche qui permet d'atteindre des niveaux de performance impensables auparavant, surtout si on la lie avec la fabrication additive, l'impression 3D, qui peut réaliser ces formes complexes. Ça change fondamentalement la manière de concevoir.
Vous présentez des résultats impressionnants, c'est vrai. Mais replaçons peut-être un peu les choses dans leur contexte. L'optimisation topologique, qui est souvent à la base de la conception générative. En gros, l'idée d'enlever de la matière là où elle n'est pas structurellement nécessaire. Ça fait bien 20 ans que ça existe et que c'est utilisé en ingénierie. Formlabs le rappelle d'ailleurs. La conception générative pousse le concept plus loin, en intégrant plus de paramètres, en explorant plus de variations, j'en conviens tout à fait, mais elle ne sort pas de nulle part. Et surtout, vous passez un peu vite, je trouve, sur une difficulté majeure, la définition initiale des contraintes et des objectifs. Pour que l'IA génère quelque chose de pertinent, il faut lui fournir un cahier des charges extrêmement précis, complet, qui anticipe tous les cas d'usage. C'est là que réside la complexité et ça demande une expertise humaine très pointue. L'IA ne fait qu'explorer l'espace des solutions possibles à l'intérieur du cadre qu'on lui donne. Si le cadre est mal défini, enfin, vous voyez.
Mais c'est justement là que la valeur ajoutée humaine se déplace. L'expertise ne disparaît pas, elle se concentre sur la définition du problème, sur le bon cadrage.
Peut-être, mais ce n'est pas si simple que ça en a l'air. Et puis, il y a autre chose. Les solutions que l'IA génère, même si elles sont optimales sur le papier, selon les critères définis, elles ne sont pas toujours réalistes ou pratiques. Elles peuvent être très difficiles, voire impossibles, à fabriquer avec des méthodes de production classiques autres que l'impression 3D avancée. Ou alors, elles sont optimisées pour un cas de charge principal, mais se révèlent fragiles ou peu pratiques dans d'autres situations réelles. L'optimum théorique n'est pas toujours l'optimum pratique, hein. Et je reviens sur le coût. Dessintec le souligne, ces logiciels de pointe ne sont pas à la portée de toutes les PME et ils demandent un investissement non négligeable en formation et en puissance de calcul. Donc c'est une évolution puissante, oui, je suis d'accord, mais qui a ses limites et ses contraintes. Pas une révolution qui balaye tout, à mon sens.
Abordons l'impact sur l'emploi et les compétences. Vous agitez le spectre du remplacement massif, mais je pense que c'est une vision un peu partielle. L'IA va surtout transformer les métiers de la conception. Les tâches automatisables sont souvent celles à faible valeur ajoutée, soyons honnêtes. Ce qui est valorisé, et le sera de plus en plus, ce sont les compétences de haut niveau. La capacité à analyser un besoin complexe et à le traduire en spécifications techniques précises, ce dont on vient de parler, la créativité pour imaginer de nouvelles fonctionnalités, la pensée systémique pour voir comment une pièce s'intègre dans un ensemble plus large, et bien sûr, l'esprit critique pour évaluer, valider et choisir parmi les propositions de l'IA. L'IA devient un outil puissant, certes, mais un outil au service de l'ingénieur ou du dessinateur qualifié. Le think tank et genhive.fr parlent d'agent assistant ou de collaborateur.
On ne supprime pas le pilote, on lui donne un copilote plus performant. De nouvelles opportunités vont même émerger pour ceux qui sauront maîtriser ces outils et les intégrer dans leur flux de travail.
Je suis désolée, mais cet argument de la transformation et de la montée en compétences, ça me semble un peu trop optimiste, voire naïf, face aux réalités économiques. L'analyse du secteur bâtiment, citée par Mon Bâtiment, est très claire. Pour des postes comme dessinateur-projeteur effectuant des tâches répétitives ou maîtreur, la menace n'est pas une transformation, c'est un risque direct de suppression d'emplois. Dans beaucoup d'entreprises, la pression pour réduire les coûts est forte et l'automatisation des fonctions jugées improductives ou facilement remplaçables est une voie évidente. Votre copilote risque de devenir le pilote principal pour certaines tâches, malheureusement. Et puis, plus subtilement mais tout aussi préoccupant, il y a le risque de déqualification pointé par le think tank Aide et Syntech. Si l'IA prend en charge toutes les étapes de conception préliminaire, comment les jeunes ingénieurs, les nouveaux arrivants dans le métier, vont-ils acquérir les fondamentaux ? Comment développer cette intuition technique, ce sens physique qui vient de l'expérience, de la confrontation répétée aux problèmes de base, si la machine fait tout le travail en amont ? C'est un vrai défi pour la formation et la transmission du savoir-faire. On pourrait former des utilisateurs d'outils IA, oui, mais perdre des concepteurs au sens profond du terme.
C'est un défi pour la formation, tout à fait, qui devrait effectivement s'adapter, intégrer ces outils et repenser la manière d'enseigner les fondamentaux. Mais je ne crois pas à une perte de compétences généralisée. Les principes d'ingénierie de base, la mécanique, la résistance des matériaux, la thermique, restent les mêmes. L'IA aide à les appliquer plus vite et sur des problèmes plus complexes, Quant à la fiabilité, autre point que vous souleviez...
Avant de passer à la fiabilité, juste un mot sur cette adaptation de la formation. C'est facile à dire, il faut s'adapter, mais qui va financer cette adaptation massive? Comment s'assurer que les compétences développées correspondent réellement aux besoins futurs, qui sont encore assez incertains? Le risque, c'est de créer un décalage entre une main-d'œuvre formée aux anciennes méthodes et une technologie qui avance très très vite. Et ça, ça creuse les inégalités sur le marché du travail.
C'est une préoccupation légitime, qui dépasse d'ailleurs le cadre de la CAO. Mais revenons à la fiabilité et aux limites techniques. Là aussi, les progrès sont rapides. Les tendances pour 2025 évoquées par CAO Trends 2025 montrent une intégration de plus en plus poussée de la simulation numérique en temps réel directement dans l'outil de CAO. L'IA ne se contente pas de générer une forme, elle peut simultanément évaluer sa résistance, sa durabilité, son comportement thermique ou fluidique. Elle peut aider à identifier des points faibles, à optimiser la sécurité, voire l'impact environnemental, dès les premières esquisses. Le think tank parle de l'utilisation de jumeaux numériques intelligents qui permettent d'améliorer continuellement les modèles. Les outils deviennent plus robustes, plus fiables.
Plus robustes, peut-être, mais pas infaillibles. Et les questions fondamentales demeurent. Vous mentionnez les biais. Si les données d'entraînement de l'IA reflètent des conceptions passées qui comportent des faiblesses ou des parties pris non désirées, l'IA risque de les reproduire, voire de les amplifier. Comment s'en assurer? Et la transparence, ça reste un problème majeur. Beaucoup de ces algorithmes fonctionnent comme des boîtes noires. On a une entrée, les contraintes, une sortie, le design, mais le processus interne reste opaque. Tendy et Desyntec soulignent ce manque d'explicabilité. Comment valider sereinement une conception critique si on ne comprend pas pourquoi l'IA a fait ses choix spécifiques? C'est là qu'intervient la nécessité de développer ce qu'on appelle l'XAI, l'IA explicable. Mais on en est encore loin pour des systèmes aussi complexes, soyons clairs. FEA nous amène directement à la question cruciale de la responsabilité, soulevée par toutes les sources critiques, think tank, Desyntec, Trendy. En cas de défaillance d'une pièce conçue par IA, un pont qui s'effondre, un implant médical qui casse, qui est responsable? L'ingénieur qui a validé le design? Celui qui a défini les contraintes? L'éditeur du logiciel IA? Le fournisseur des données? C'est un vide juridique et éthique majeur. Sans parler de la robustesse face à l'imprévu, une IA entraînée sur des milliers de cas peut-elle réagir correctement à une situation totalement nouvelle, non anticipée dans ses données? C'est loin d'être garanti. Il faut absolument des garde-fous comme le suggère la think tank, une validation humaine systématique, Human in the Loop, des audits réguliers des algos et des données, peut-être même des comités d'éthique pour encadrer l'usage dans les domaines critiques.
Bon, en conclusion, je reste convaincu que l'IA en CAO est une force de transformation majeure et globalement positive. Elle ne remplace pas l'humain, elle augmente ses capacités. Elle automatise les tâches fastidieuses pour libérer du temps pour la créativité et l'analyse complexe. Elle ouvre des perspectives inédites en matière d'optimisation et d'innovation. C'est une évolution technologique puissante qu'il faut apprendre à maîtriser et à intégrer intelligemment pour en récolter tous les bénéfices.
Et je conclurai en réaffirmant que si le potentiel est indéniable, les raisons d'être prudentes sont nombreuses et sérieuses. Le risque de remplacement de certains emplois est concret, la menace de déqualification et de perte de savoir-faire n'est pas à écarter. Et les défis liés à la fiabilité, à la transparence et à la responsabilité des systèmes d'IA sont loin, très loin d'être résolus. L'IA en chaos est une promesse alléchante, certes, mais une promesse qui exige une approche critique, mesurée et un encadrement rigoureux pour éviter les dérives. Voilà.
Nous sommes donc d'accord sur le fait que l'intégration de l'IA redéfinit en profondeur les métiers de la conception. Là où nos avis divergent, c'est sur l'équilibre final entre, disons, l'augmentation des capacités et le risque de remplacement, et sur notre capacité collective à adresser efficacement les défis techniques et les questions de responsabilité qui se posent aujourd'hui.
Tout à fait. L'impact final de cette technologie ne sera pas seulement dicté par les algorithmes eux-mêmes, mais bien par les choix que nous ferons. Comment nous intégrons ces outils dans nos processus? Comment nous adaptons nos formations? Comment nous mettons en place les garde-fous nécessaires? Les sources que nous avons explorées montrent toute la complexité du sujet et invitent, je pense, à poursuivre cette réflexion essentielle en pesant soigneusement les promesses et les périls.